Bénie qui commence Itanou. On va recommencer ici. Vezeu Shamar Akatou, Vaishak Yaakov et Rachel. Donc on est dans notre deuxième cours sur le chapitre 45. Avant de commencer ce cours, puisqu'on commence une nouvelle saison, et que bon, on va dire que septembre c'est la pré-rentrée, que la vraie rentrée c'est maintenant. Donc j'aimerais faire le point.
Français, il doit passer le barrage, hein.
J'aimerais faire le point où on en est dans le Tania. Et qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines semaines? De quoi on va parler? Donc, à partir du chapitre 41, on a parlé du concept de Ahava Veira. On a expliqué longuement qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu, qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu. Mais c'était des techniques, on a donné des techniques, d'accord? Je ne veux pas dire qu'on n'a pas donné des techniques, mais c'était des techniques qui étaient relativement difficiles. Difficile d'accès. Il y a beaucoup de travail. On a parlé de ressembler à Avraham Avinu, ressembler à Moshe Rabbeinu. On a donné plusieurs techniques. Mais je rattache, on fera un résumé sur ça aussi. Mais on a parlé de plusieurs techniques sur Ahava Veira. Donc ça, c'est chapitre 41, 42 et 43. Aimer Dieu et craindre Dieu. Qui sont les ailes qui font voler le corps. Ça veut dire, c'est grâce à ça que la mitzvah peut monter chez Akadosh Baruch Hu. On a déjà fait un résumé sur 41.
Ouais, c'est le style des résumés. Oui, j'avais connu.
Bon. Ensuite, on a commencé chapitre 44-45. Pourquoi on parle dans chapitre 44-45? Là, maintenant, je vais me focaliser sur le chapitre 45. Et en vérité, on va être dans la même lancée dans chapitre 45, 46 et 47. Donc jusqu'à à peu près Hanouka. Là, on va parler. On va donner des... à peu près, je pense. On va donner des techniques pour arriver plus facilement à aimer Dieu et à craindre Dieu. Puisque étant donné que tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, c'était accessible, mais il fallait beaucoup de temps, c'était très difficile. On a donné des techniques de réflexion, etc., mais c'était pas facile. Donc là, à partir du chapitre 45, 45, 46, 47, il va nous donner deux techniques, deux grandes techniques, pour arriver à aimer Dieu et à craindre Dieu beaucoup plus facilement que par la longue réflexion. La technique qu'on a commencé à développer dans le chapitre 45, c'est quoi? C'est la technique de Rachamim. Expliqué comme ça. Pour aimer quelqu'un, ça prend du temps. Ça se fait pas comme ça. C'est pas du jour au lendemain qu'on aime quelqu'un. Pour craindre quelqu'un, pour avoir la crainte de quelqu'un, ça prend du temps aussi. Y a rien qui est instantané. Qu'est-ce qui peut arriver très rapidement? C'est la mida de Rachamim. La mida de Yaakov. La mida de la miséricorde. On a dit qu'on a expliqué le terme de miséricorde, pitié. On a dit qu'avoir pitié sur quelqu'un, c'est très rapide. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Ça veut dire, si j'ai besoin d'aimer quelqu'un, ça prend du temps. Il faut que je comprenne qu'est-ce que la personne a m'apporté, pourquoi il faut aimer la personne, ça prend du temps. Mais avoir pitié sur quelqu'un, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. D'autant plus, si ce quelqu'un, c'est moi. Avoir pitié de soi-même, c'est très rapide. Bon, alors on a expliqué aussi qu'il y a des risques, parce que d'un autre côté, si on joue à ce jeu-là, ben, Dieu préserve après, une personne peut dire, dans ce cas-là, j'ai pitié de moi-même, je suis cul, il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Donc, bien sûr, il ne faut pas arriver à ça, on va expliquer aussi. Mais, ce qu'on veut expliquer, c'est qu'arriver à Rachamim, arriver à avoir de pitié de soi, c'est la manière la plus facile de faire teshuvah. Et d'ailleurs, quand on voit les témoignages, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait teshuvah. Qu'est-ce qui a fait le déclic? À quel moment ils ont fait le déclic? C'est quand ils réalisaient que leur vie était vide. Donc ils avaient pitié d'eux-mêmes, en d'autres termes. C'est ça, ils avaient pitié, ils se sentaient qu'ils vivaient dans un vide. Ça prend du temps, je dis pas que c'est rapide, mais c'est beaucoup plus rapide que Ahava Veira qu'on a expliqué dans le chapitre 41, 42, 43, 44. C'est beaucoup plus rapide. Parce qu'avoir pitié sur soi, c'est très rapide. Au contraire, moins j'en ai, et plus le sentiment ira plus vite. C'est-à-dire comme ça, tu me dis d'aimer Dieu. Si j'ai jamais aimé Dieu, j'ai jamais fait aucune mitzvah, c'est difficile, ça prend du temps. Mais tu me dis, aie pitié de moi. Moins j'en ai, et plus facilement j'aurai pitié de moi. Ça, c'est le concept de Rachami. Donc elle a expliqué à Edmond Razaken longuement. Il a dit que, à Kadosh Baruch Hu, en fait, ce qu'il attend, donc on avait fait ce cours entre Rosh Hashanah et Kippour, que souvent, à Kadosh Baruch Hu, quand il voit qu'un juif, il est perdu, et il voit qu'il n'y a plus rien à faire, selon les lois de la nature, à Kadosh Baruch Hu attend une chose. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que le juif réalise qu'il est dans la galère. Et qu'il ait pitié de soi-même. Qu'il se dise, je suis pas bien. Et là, à ce moment-là, il y a un déclic qui se passe. Une fois que la personne comprend que quelque chose qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Veyashov et Hashem virachameu. Là, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, de son côté, fait tout pour que la teshuvah d'une personne passe de manière fluide. Bon. Non, avec ça, donc on est à la ligne qui commence, Itanou. Et je suis à la fin de la ligne, Vezeu Shamar Akatou. Donc là, on est toujours dans la technique pour arriver à servir Dieu. Donc commencer à faire sa teshuvah. Et toute la vie, on fait teshuvah. commencer à faire cette échouva par pitié. Bezrat Hashem, à partir du chapitre 46, on aura une autre technique qui va durer pendant deux chapitres, c'est la technique de Hakarat Hatov. Hakarat Hatov, ça veut dire la reconnaissance envers Dieu. Essayer de réfléchir qu'est-ce que Dieu nous a donné, quand, et comment de lui rendre. C'est une technique qu'on retrouve très souvent dans les livres de Moussa, le concept de Hakarat Hatov. Hakarat Hatov, c'est-à-dire la reconnaissance. Et ça, Bezrat Hashem, on aura entre 3 ou 4 cours dessus, donc chapitre 46-47. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas là. Pour l'instant, on est à Rachamim, avoir pitié sur soi. Moazaken, avec le concept qu'on a expliqué, ça on a expliqué entre Rosh Hashanah et Kippour, qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu attend qu'une personne sente qu'il n'est pas dans le bon chemin, qu'il faut qu'il se récupère. Et une fois que la personne a compris ça, Akadosh Baruch Hu après, il le reprend en main, il lui dit, t'inquiète pas, maintenant, tout va aller très vite. Avec ça, on va expliquer une histoire qui est des plus bizarres dans la Torah. Zehu Shamar Akatou, Vaisha Yaakov le Rachel, Vaisha et Kolo Vaisha. Qu'est-ce qu'elle nous raconte la Torah là? On prend ma page ici, j'ai amené le chumash, parce que le commentaire parle beaucoup de ça. Alors.
C'est la première fois que tu nous fais ça, hein? C'est une nouvelle session.
Vaïsha Yaakov le Rachel, Vaïsha et Kolo Vaïevk. Donc c'est quoi l'histoire? C'est Yaakov qui est parti.
Au puits.
Il est parti, donc pour à la rencontre de Rachel, sa future épouse. Et dès qu'il s'approche, il a remarqué que c'était Rachel, mais Rachel ne sait pas que c'est Yaakov. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le verset? Vaishak Yaakov le Rachel, Yaakov a embrassé Rachel, Vaïsa et Kolo Vaïevk, et il s'est mis à pleurer. Vaïaged Yaakov le Rachel, qui achi Abiyahu. Ensuite, Yaakov a dit à Rachel, qui achi Abiyahu, qu'il était le frère de son père. Rachel explique que ça veut dire quoi le frère de son père? C'est une expression pour dire qu'il était proche de son père, parce que Yaakov n'était pas le frère de son père, c'était le neveu de son père. D'accord. Ça, Rachel explique. Vechi ben Rivkaou, et qu'il était le fils de Rivka, Vatarot, Vataged la Via. Et donc le verset nous dit après que Rachel a couru pour raconter ça à son père. Alors déjà, le Even Ezra nous fait remarquer une chose très simple. Il nous dit déjà, on voit tout de suite que ce verset a un problème. Parce que quand on lit l'histoire, qu'est-ce qu'on nous dit? Rachel ne sait pas qui elle a devant elle. Tout d'un coup, elle a quelqu'un qui vient et qui l'embrasse. Elle ne sait pas. Après, il lui dit, tu sais, je suis ton cousin. Un problème. D'accord?
Je ne parlerai pas.
Donc le Even Ezra...
D'accord, on discute pas sur ce qu'il fait, hein, mais c'est un problème.
Alors, le Even Ezra, il pose la question, il dit que bon, il a une autre manière d'expliquer les versets, le sens des versets.
Il traduit Vaïcha autrement, non?
Non, attendez, non, on n'est pas encore arrivé à ça.
Ah, on va y arriver.
Il explique que, en vérité, d'abord, Yaakov, il s'est présenté, il a dit bonjour, je suis ton cousin, etc. Et après, il a embrassé. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il a embrassé? C'est très bien ce que Maïmonide, il nous dit, que même embrasser sa sœur, une fois qu'on a déjà atteint l'âge de bar mitzvah ou un peu plus grand, c'est un minag mégouné. Minag mégouné, ça veut dire que c'est quelque chose de...
C'est l'habitude.
C'est pas assourd. C'est écrit que si sa sœur exige qu'on l'embrasse, on peut l'embrasser. Mais c'est une sale habitude. Comme ça il dit, Emoni. Donc, la majorité des commentaires s'arrêtent pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit que Yaakov a embrassé Rachel. Alors attends, on va voir. Alors, premièrement, on a le Sforno. On y arrive. Premièrement, on a le commentaire du Sforno. Le Sforno nous dit la chose suivante, il nous dit « Ki achi aviyahu, leodia shelo chata bemusak shenashak ota ». Pourquoi on nous dit que c'était son cousin, qu'il était, donc c'était quelqu'un de proche, d'accord, quelqu'un qui était de sa famille? C'est pour nous dire qu'il n'y a pas eu de faute quand il a embrassé. Donc déjà, on voit tout de suite qu'il y a un problème, on n'embrasse pas n'importe qui comme ça. Très bien. Ensuite, quand on voit encore les autres commentaires...
Enfin, ça répond pas, hein.
Non, attendez, j'ai pas fini.
Ouais, si la sœur déjà on dit
Orachaim, il s'arrête aussi, il dit comme ça, il dit Saam Omro Shalosh Peamim Achimo Lelot Sorer. Pourquoi on voit ici que la Torah nous répète trois fois? Pourquoi il répète trois fois qu'il était de sa famille? Achimo, ça trois fois il répète qu'il est de sa famille. Alors, il nous dit le Orachaim, Lomar, Shekol Maasa Vayu Letzad Eyoto Achimo Velirvod Imo. C'est pour dire que tout ce qu'il a fait, c'était parce que il était le frère de sa, donc c'est parce qu'il était de sa famille, comme explique Rashi, et c'est par kavod qu'il a fait pour la famille. Donc apparemment, ils avaient une habitude chez la famille de Laban, et il a fait ça par kavod.
Il a respecté les us et coutumes.
Le tzad achashad, shir eu otse chesed imrachel, ve ou ishnochi bir oto, ve ou ishnochi lazay amotie tamadavar. Il nous dit aussi autre chose, Laurent Chaim, il nous dit pourquoi Yaakov, il vient, il embrasse, il dit, ah, ma cousine, pourquoi tu répètes trois fois ma cousine? Pour que les gens qui voient, ils vont pas se dire, il est fou celui-là, il vient direct, il embrasse, ça se fait pas. Pourquoi il dit ma cousine? Comme ça, les gens, dès qu'ils vont commencer à vouloir penser avoir des idées tordues. Tout de suite, ils vont entendre ma cousine, ils vont se calmer. D'accord ? Bon, ça enlève toutes les ambiguïtés. On a encore beaucoup de... C'est par rapport aux autres. D'accord ? On a aussi...
À l'époque, on se mariait beaucoup entre cousines.
Au contraire. Complètement.
Au contraire.
Oui, complètement. C'était que ça.
C'était que ça.
D'accord. Alors, on a aussi le Dad Kenin de Palais Tosfot qui dit la réponse que tu dis, qui dit que Rachel était considérée à ce moment-là Ktana. D'accord. Était considérée Ktana et donc on a le droit de l'embrasser. Bon. Donc, vous voyez que les commentaires, le Ramban aussi, d'accord, Khazak. Le Ramban, Nachmanit, il s'arrête sur la question aussi. Et il dit que quand c'est écrit Vaishak Yaakov les Rachel, c'est écrit que Yaakov a embrassé les Rachel, il dit que quand c'est écrit les Rachel, ça veut dire qu'il a embrassé sur le front et pas sur la bouche. Ah, pour vous dire que les commentaires... Oui. Vaishak Yaakov les Rachel, parce qu'il y en a qui expliquent que c'est sur la bouche. Et on va voir. Bon. Maintenant, on va voir quel rapport avec notre histoire de Rachamim. Vous allez voir comment le Morazakan va expliquer ça.
Ils étaient chauds, là.
Comme en Russie.
Non, mais d'abord, les Rachel, c'est pas la formule hébraïque ad hoc.
Oui. Alors voilà, comme
c'est... Quand on dit embrasser quelqu'un, c'est Vaishak et.
Et. Donc quand on dit les Rachel...
On n'est plus dans la même dimension.
Donc voilà, donc Zélé explique, il dit que les Rachel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a embrassé sur le front.
Non, ou alors, non, comme il a expliqué tout à l'heure en disant pour le fait qu'elle était Rachel, voilà. Ça veut dire parce que c'est la famille, ainsi de suite.
Voilà.
C'est en tant que Rachel, mais pas parce qu'il voulait l'embrasser.
Ouais.
Ça, les Rachel.
Ça, le Rachel, il dit l'Irvod Ima.
Voilà, les c'est la cause du lait, qu'il dit.
Exactement. D'accord.
Bon. Comment?
Donc ça, c'est...
De faire quoi? De faire quoi comme ça?
C'est le mina qu'ils avaient, donc lui par kavod, on a dit ce que Maïmonide dit. Maïmonide dit que c'est pas assourd, d'accord, c'est pas joli de le faire, mais si la sœur elle veut qu'on l'embrasse, on peut l'embrasser. Donc c'est la même chose pour la cousine, surtout qu'elle était petite. Donc alarchiquement, il n'y a pas de question. Bon.
Elle était petite d'âge, pas de jeune fille. Hein.
Maintenant, pourquoi la Torah nous raconte tout ça?
À cette époque-là, elle marchait au puits, elle transportait tout, c'était déjà une femme. Hein. Simplement à l'époque, ils grandissaient plus vite que la nature. Hein.
Ah, monsieur David.
Pas comme aujourd'hui.
Ah, je t'ai pas vu rentrer.
Non.
Alors, pourquoi la Torah nous raconte tout ça?
Déjà.
Elle était grande, elle était déjà grande, mais on ne peut pas avoir de relation.
Voilà. On n'avait pas le droit, parce que c'était pas le derrière.
Ouais.
Pas le derrière, mais elle était
grande. Parce qu'elle n'était pas capable d'avoir des enfants.
C'était des adultes.
Ils n'avaient pas encore leurs règles. Ils étaient mûrs à partir de 3 ans, mais ils n'avaient pas leurs règles que jusqu'à 12 ans.
Voilà.
Comme aujourd'hui. C'est-à-dire que la nature n'a pas changé sur ça, mais ils étaient plus mûrs.
Mais ils étaient grands aussi. Ah oui. C'était comme des adultes, quoi.
Mais ils n'avaient pas leurs règles jusqu'à 12 ans.
Voilà. Bon.
Alors pourquoi la Morazaka nous raconte tout ça?
On se demande.
Là maintenant, on va expliquer. Qu'en vérité. Quand on dit que Vaishak, Yaakov, les Rachel, tout ce qui s'est passé avec les Avot, tout ce qui s'est passé avec les patriarches, et à plus forte raison ce qui n'est pas seulement écrit dans le Midrash, parce que dans le Midrash, des fois, c'est pas toujours qu'on comprend ce qui est écrit dans le Midrash, à plus forte raison ce qui est écrit explicitement dans la Torah, il faut savoir que derrière la couche matérielle, on est en train de lire, on a une couche matérielle, on a l'impression qu'il a embrassé, qu'il a retrouvé sa famille, etc. Derrière tout ça, il y a toujours une couche spirituelle qui se cache. C'est-à-dire qu'il y a des événements spirituels qui se cachent. Toujours. Ça veut dire que tu faut savoir, ça c'est un principe de base qu'il faut accepter quand on étudie la Torah, c'est que chaque événement qui se passe matériellement dans la Torah, comme la sortie d'Égypte, comme il me semble que le Ramchal il parle beaucoup de cette idée aussi, que chaque événement qui se passe dans la Torah, en vérité c'est des événements qu'Akadosh Baruch Hu a placé dans l'histoire. C'est des concepts qu'Akadosh Baruch Hu a placé dans l'histoire. Donc là par exemple, quand on nous dit que Yaakov a embrassé Rachel, nous, on lit, on a l'impression qu'il a embrassé. Bon, il a embrassé physiquement. Sur la bouche, sur le front, ce que tu veux, il a embrassé. En vérité, comme on va expliquer ce que se fait expliquer à Morazaken, selon la Kabbalah, on va expliquer que spirituellement, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est quelque chose qui ne dépend pas du temps. C'est quelque chose qui est, comment dire, quelque chose qui ne dépend pas du temps, quelque chose qui est intemporel. Et qui était valable avant même que Yaakov soit né. Et qui est toujours valable maintenant. Alors, de quoi on parle?
Il y a une fusion de l'échabot.
Vezeu Shamar Akatouv, Vaishak Yaakov le Rachel, que Yaakov a embrassé Rachel, Vaïsa et Kolo Vaïevk. Yaakov a embrassé Rachel, et il a élevé sa voix, et il a pleuré. Et
déjà, il a pleuré. Que ça veut dire.
De quoi on parle ici? Donc Yaakov a pleuré. Donc comme on a dit, Yaakov et Rachel, c'est pas uniquement deux personnes qui ont vécu il y a 4000 ans d'aujourd'hui, mais Yaakov et Rachel, c'est deux personnes qui représentent des choses un peu plus. On va commencer par Rachel. Qu'est-ce que ça représente Rachel? Qui Rachel, I Knesset Israël. Rachel représente l'assemblée d'Israël, mais Kor Kol HaNeshamot. Mais Kor Kol HaNeshamot, donc Rachel, ça représente l'assemblée d'Israël, qui est la source et la racine de toutes les Neshamot. Il faut savoir que Rachel, très souvent, quand on parle de, du peuple juif en exil, on compare ça souvent à Rachel. Comme il ramène ici le Midrash. Midrash qui dit ici. Mara Yaakov Avinu l'Igbor et Rachel Bederech Ephrat. Pourquoi Yaakov Avinu a enterré Rachel dans le chemin de Ephrat? Donc aujourd'hui où elle est, à Bethlehem. Et là, Tsafa Yaakov Avinu, Shagaluyot Atidot Lavorsham. Il a vu que les exilés et les exils allaient passer par là-bas. Les filles rares, c'est pour ça. Kavracham, il a enterré là-bas. Qui est DGTE, mais va kechet Alem Rachamim pour que Rachel demande sur le Ham Israël Rachamim la miséricorde. Et c'est le verset qu'on dit qui est très populaire. Rachel me va kal bania, d'accord, qui est écrit en grand d'ailleurs sur le Kever Rachel. Enfin, un autre midrash qui nous dit aussi, sur le pasouk Verachel Akara, on nous dit que Rachel était stérile. Qu'est-ce qu'il dit le midrash? Les fichach nikraou Israël al Shema. C'est pour ça que Israël sont appelés au nom de Rachel. Kakatouv Rachel me va kal bania. Pour nous dire que le peuple juif, souvent nous aussi, on est stérile et qu'en d'autres termes, il y a beaucoup de choses que Kadosh Baruch Hu ne nous donne pas d'office. D'accord? On est des fois stérile et on a besoin de prier à Kadosh Baruch Hu comme Rachel devait prier à Kadosh Baruch Hu pour avoir des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rachel en général, ça représente quoi? Ça représente Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël. Ça c'est Rachel. Et quand je dis l'Assemblée d'Israël, c'est pas seulement l'Assemblée d'Israël telle qu'elle était à l'époque du Beth Amikdash, c'est l'Assemblée d'Israël surtout telle qu'elle sera
à l'époque
de maintenant, quand on est en exil, ça c'est Rachel. Comme on a expliqué le cours précédent, le Tikkun Rachel, Tikkun Léa qu'on fait dans Tikkun Chatzot, que Tikkun Rachel c'est principalement des pleurs sur la galoute. Bon, ça c'est Rachel. C'est quoi Yaakov? Yaakov, Emidato Aliona, chez Emidat Arachamim, chez Boala, Matsilhout. Yaakov, ça représente quoi? Ça représente la Mida de Rachamim, on va développer un peu plus ce que ça veut dire, qui est dans le monde de Hatzilut, ou Améoré Rachamim Rabbi Malea. Qui c'est qui va éveiller de la miséricorde sur Rachel? Donc Rachel, en d'autres termes, ça représente le peuple juif en galère, le peuple juif stérile. C'est un peu nous, on est en exil maintenant. Qui c'est qui va éveiller la miséricorde sur Rachel? C'est Yaakov. Comment Yaakov va s'y prendre? Vaïssa et Kolo. Yaakov, il va élever sa voix. Les Mala, Mimkor Rachamim, Aël a Rachamim Alionim, Anikra Ava Rachamim ou Mekoram, Vaïef et il a pleuré. Voilà ce qui explique ici. Ah dommage, la dernière fois Yves m'a dit c'est dommage qu'on n'a pas pu développer Rachel et Yaakov, l'histoire de Rachel et Yaakov. Tu te rappelles? Bon, c'était avant Kippour.
C'est un autre homme maintenant.
Non, il m'avait dit c'est dommage quand même. Tu te rappelles? Voilà, bon, on a développé dessus. Alors, c'est quoi Yaakov? On nous dit ici que Yaakov a élevé sa voix et il a pleuré. C'est deux choses différentes. Élever sa voix, ça montre que la personne est emportée. Ça veut dire que je vis ce que je suis en train de dire.
Il y a
un enflammement. Pleurer, ça veut dire quoi? Pleurer, ça veut dire que j'ai craqué, c'est-à-dire que j'ai dépassé quelque chose. Pleurer, ça veut dire que je suis parti chercher quelque chose qui est plus haut que ma logique. Ça, c'est ce qui se passe en général. Quand une personne élève sa voix, c'est-à-dire que là, il reste encore dans les limites de son cerveau. Qu'est-ce qui se passe quand il pleure? D'où viennent les larmes? D'où ça vient les larmes? C'est écrit que les larmes...
Les pleurs de lacrymale.
Quand? C'est quoi lacrymale?
Non, lacrymale, c'est des larmes.
Oui, d'accord, mais d'où ça vient les larmes? Quand? Alors, c'est expliqué que les larmes, ça vient des résidus du cerveau. Ça, c'est écrit. Dans la Kabbalah. Alors, je sais pas comment s'explique en médecine, ça.
Ah, d'accord.
Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est écrit que les larmes...
Il n'y a pas beaucoup de cerveau si on a des résidus.
C'est les résidus, ça veut dire quoi? Alors, c'est une image. C'est une image,
oui,
pour dire quoi? C'est une image pour dire que les larmes interviennent au moment où le cerveau ne suit plus.
Il décroche.
Bien parce que c'est trop fort, donc c'est l'émotion. Donc qu'est-ce qu'il fait Yaakov ici? Vaïssa et Kolo Vaïef. Ça veut dire que Yaakov va se dépasser. Quand on nous dit qu'il a pleuré Yaakov. Donc, matériellement, on sait ce que ça veut dire pleurer. Spirituellement, ça veut dire quoi que Yaakov a pleuré? Ça veut dire que Yaakov va aller chercher plus loin que ce qu'il connaît. Quand quelqu'un pleure, ça veut dire en général je suis ce que je suis, mais là maintenant j'ai craqué. Je suis parti plus loin que l'endroit où j'ai l'habitude d'aller. Donc Yaakov, quand il va pleurer, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher plus loin que ce qu'il a l'habitude de faire. Où il va aller chercher? Au niveau de Avarachamim. Alors, Avarachamim, à ne pas confondre avec... Je vais expliquer tout de suite. À ne pas confondre avec Avarachaman. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la tfilah de Yom Kippour, en général dans les tfilotes, en général on emploie le terme Avarachaman. Et dans certains endroits, quand ça devient chaud, on emploie le terme Avarachamim. Par exemple dans la Neila, vous remarquerez même, j'ai vérifié dans la Neila Sfarad aussi, on parle de Rachamim. Alors que très souvent on parle de Rachaman. Quelle est la différence entre Avarachaman et Avarachamim? On va traduire. Avarachaman, ça veut dire un père miséricordieux. Et Avarachamim, le père de la miséricorde. Lequel est plus fort d'après vous?
C'est lui qu'on en parle moins souvent.
Oui, pourquoi? Hein? Il n'y a rien à voir, Gabriel, dans le...
Je crois que David, il est parti chercher...
Ouais, David, il n'a pas trouvé, il est parti chercher
dans le... Ah, bon, vous avez, j'ai pas eu de
temps. Comme ça, je pense.
Les Chora.
Mais je le vois comme ça, il est tac, on n'a pas vu comment il est parti, après directement voilà.
Alors, c'est quoi la différence entre Avarachaman et Avarachamim? C'est très simple.
Là, c'est le potentiel de sa réalisation.
Oui, mais lequel est plus fort?
La réalisation. Là, ouais. Il a le... Avarachaman, c'est celui qui a le potentiel d'être Avarachamim. Mais il est ou il n'est pas.
C'est le contraire.
Pourquoi?
Non. Avarachaman, c'est celui qui est déjà miséricordieux.
Miséricordieux,
c'est... Et Avarachamim,
c'est le père de la miséricorde. Alors, regardez comment... Je sais pas comment, que ça donne en français, mais on va expliquer ici ce qu'a dit Yann Mourazaken.
Parce que l'Avarachamim...
C'est le père de la miséricorde.
Alors, c'est un pluriel.
Je vais expliquer.
Le père des miséricordes.
C'est ce que j'ai dit, mais... Oui, mais c'est parce que c'est très attribué de...
Non, mais non. Je parle de l'hébreu maintenant. Hein. On
oui,
comprend
bon,
ce que ça veut dire.
Non, c'est la même chose, non. Rachamim,
c'est le père de toutes les miséricordes qui existent.
Rachamim, c'est un singulier, toujours. C'est un singulier, un pluriel.
Comment on dit?
On n'aurait pas dit Avarachamanout.
Non, mais ça existe, Rachmanout au singulier. Ouais. Rachamim, c'est le pluriel. Maïm, il n'y a pas au singulier.
Ouais.
Ou je sais pas, ou Shamaïm, ou je sais pas quoi, ou Panim. Ça n'existe pas au singulier, mais...
C'est comme Maïm. Bon, je pense que Rachamim, c'est un... On ne fait pas la différence. Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pas ce que veut dire le Mourazaken. Le Mourazaken veut dire comme ça.
Oui,
il y a Avarachaman, il explique dans l'Écouté Torah. Quand il a, donc, le Mourazaken a écrit aussi un texte sur les parachiotes et sur les fêtes. Et là-bas, hein, quand il approche de Yom Kippour, il explique la différence entre Avarachaman et Avarachamim. Il dit qu'Avarachaman, c'est quoi? Avarachaman, c'est le père miséricordieux. Ça veut dire, on parle d'un niveau dans lequel la Kadosh Baruch Hu est déjà miséricordieux. On va donner un exemple. Imaginez-vous que je vois une situation dehors, je vois un oiseau en train de souffrir. Je vois un oiseau en train de souffrir, c'est toujours l'image qu'on donne. Et j'ai un sentiment de pitié, j'ai de la peine pour cet oiseau-là. J'ai pitié pour cet oiseau-là. C'est de la rachamim, ça rentre dans la catégorie de rachamim. Est-ce que je peux dire vraiment que j'ai pitié de l'oiseau, ou j'ai pitié de moi-même? Est-ce que vous suivez ma question?
Moi, je dirais de toi-même.
Bon, alors ça, c'est un peu des deux, mais vous avez raison, c'est plutôt de moi-même.
Parce que tu vas être mal de l'avoir laissé rien faire.
Parce que c'est ce qu'on ressent pour soi-même, qu'on projette sur l'oiseau. L'oiseau n'en fait rien, qu'est-ce qu'il pense?
Je vais te donner la preuve de ça. C'est quoi? La preuve est très simple.
Une projection.
Quand quelqu'un vient ici pour ramasser de la tzaka, et qui va essayer de nous sensibiliser, la tzaka va or. Qui va essayer de nous sensibiliser.
Tu t'es dit que c'est pas ça, le sadique, je le savais.
David.
J'ai vu sortir comme une flèche.
Avarachamim.
Avarachamim. Chokhei mimeromim.
J'ai pas osé ramener de.
Non, tu as bien fait, non, c'est honteux. Mais là, quoi la cavale.
Ça
dit que... Il n'y
avait pas de coca normal.
Hein. Non, mais il y avait ce qu'il fallait, tâton.
On va prendre l'exemple de quelqu'un qui vient ici pour ramasser de l'argent. Il vient pour ramasser de l'argent, donc il va essayer de nous sensibiliser, de nous faire un peu pleurer. D'accord? Vous allez remarquer que la quantité des dons va dépendre de la manière comment il a réussi à sensibiliser les gens.
Bien sûr.
Ça veut dire que s'il a grave réussi à sensibiliser les gens, eh ben les gens ils vont donner bien. Mais si c'est pas un bon acteur, eh ben les gens vont donner moins. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les gens, quand ils ont pitié, ils n'ont pas pitié de la personne, ils n'ont pas pitié de la situation. En vérité, on a pitié de nous-mêmes. Ça nous fait de la peine, on ne peut pas accepter une situation comme ça. Donc tout de suite, on dit, bon, ben, j'ouvre ma poche et je donne. C'est pas négatif ce que je dis, hein, c'est un fait. Ça, c'est Avarachaman. Avarachaman, c'est quoi?
C'est déjà bien d'être sensible.
Oui, c'est déjà très bien. Mais...
Il y en a, ils entendent.
Mais c'est déjà une sensibilité qui est un petit peu égoïste. C'est pas égoïste, c'est-à-dire c'est une sensibilité, c'est une sensibilité que le but n'est pas vraiment la personne, l'objet sur lequel on a la sensibilité. En tout cas, c'est comme ça qu'explique l'Admor Hazaken. Avarachaman.
Qui n'est pas uniquement.
Qui n'est pas uniquement, voilà, ça j'ai dit qu'il y a un peu des deux. C'est un peu des deux. Ça c'est Avarachaman. Avarachamim, c'est quoi hein? C'est le père de la miséricorde. Ça veut dire que c'est la source de la miséricorde. C'est la miséricorde illimitée. Rappelez-vous l'exemple que je viens de vous donner. Celui qui est venu pour ramasser de l'argent. Il va faire appel à notre Rachamanout qui est chez nous. Un autre miséricorde qu'on a en nous. Et qu'est-ce que j'ai dit? La quantité des dons va dépendre de quoi? Va dépendre de la manière comment il a réussi à nous toucher.
Alors?
Attends. C'est pour ça qu'on dit en français d'ailleurs qu'il va nous toucher. C'est-à-dire c'est moi qui va toucher. C'est moi qui va toucher. C'est moi qui... Je vais avoir pitié de moi-même. Avarachamim, c'est beaucoup plus fort que ça. Avarachamim, on fait appel à la source de la miséricorde qui est illimitée. Il n'y a pas de limite. C'est pas j'ai pitié sur moi-même, j'ai pitié sur l'autre, donc le don va dépendre. De la manière comment on a réussi à éveiller ma pitié. En d'autres termes, ça veut dire comme ça. par rapport au niveau de Avarachaman, la bracha que Kadosh Baruch Hu va nous donner va dépendre de la manière comment on va réussir à sensibiliser Dieu, entre guillemets. Plus belle notre fila sera, et plus il nous donnera de la bracha. C'est comme l'exemple que je donnais avec celui qui vient ramasser de l'argent. Ça, c'est Avarachaman. C'est le Père qui est miséricordieux. Donc, en d'autres termes, comme nous, venez Israël, on est miséricordieux. Il suffit de faire appel, de toucher à la bonne corde. Et mieux on fera une bonne fila, et mieux Akadosh Baruch Hu va nous donner une bracha. Ça, c'est le niveau qui est en général dans toute l'année. C'est quoi Avarachamim ? Avarachamim, c'est le Père de la miséricorde. Ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui n'est pas limité par ce détail-là. C'est Akadosh Baruch Hu qui est le Père de la miséricorde et qui peut donner sans même que tu lui demandes. Il suffit juste de demander un petit peu, et Akadosh Baruch Hu, comme il est le Père de la miséricorde, donc il te donne Beshoufi. Comme il dit là-bas, Admon Razakaim. Il te donne en quantité, pas selon ce que tu as demandé. Hein? Soufi, ouais. C'est un araméen. C'est Soufi, c'est bon. Ça, c'est la différence entre Avarachaman et Avarachamim. Et ça, c'est ce qu'on dit. Et c'est ça, avec ça, explique Admon Razakaim, qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit que Yaakov, il a pleuré. Yaakov, en général, qu'est-ce qu'il représente? Yaakov, il représente la mida de Rachamim. Ça veut dire quoi, Rachamim? Ça veut dire qu'il représente la miséricorde. Il est miséricordieux. Mais après, ça va dépendre comment Rachel a réussi à le sensibiliser. Donc on a dit que Rachel, c'est l'Assemblée d'Israël. Yaakov, c'est notre patriarche. Donc par rapport à ce niveau-là, ça va dépendre comment on va réussir à sensibiliser. Si on fait une bonne fila, eh ben, on va bien recevoir. Si on n'a pas réussi à bien sensibiliser, eh ben, les dons ne suivront pas. Ça, c'est Rachamim. Quand on nous dit que Yaakov a pleuré, on a dit pleurer, ça veut dire quoi ?
Dépasser.
Pleurer, ça veut dire se dépasser ses limites. C'est-à-dire aller chercher plus loin que mes limites. Qu'est-ce qu'il dit, c'est l'Admor HaZaken ? Qu'est-ce qui se passe quand il a pleuré ? Vaïssa et kolo le mal alim kor arachamim aelyonim anikra avarachamim. Oui, une ligne de la Admor HaZaken. On en a pu passer à côté. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov ? Yaakov s'est élevé à la source de la miséricorde qui est appelée avarachamim. En d'autres termes, à ne pas confondre avec av arachaman. Av arachamim ou mekoram. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit avarachamim ? Le père de la miséricorde et la source de la miséricorde. Vaïevk. Il a pleuré, ça veut dire quoi ? Les horaires ou les hamshir, misham, rachamim, rabim, al kol aneshamot, ve al mekor knesset Israël, le alotan negalutan. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov ? Yaakov, il a pleuré pour amener une grande miséricorde sur toutes les neshamot et sur la source des neshamot Israël, donc c'est nous, le alotan negalutan, pour les élever de leur exil. Donc quand on parle d'un exil, on peut parler d'un exil global, général, mais on parle aussi d'un exil individuel. Ou les Yachadan, Beyichud, Elyon, Or, Ensof, Baruchou, Piprinat, Neshikin. Attendez, je peux arriver encore à ça. Alors, je veux dire comme ça. Là, en vérité, le Mourazakan veut expliquer ce qu'on a expliqué au cours précédent. On a dit que, pourquoi servir à Kadosh Baruch par la Rachamim, c'est très facile, parce qu'il suffit d'avoir un petit peu pitié de soi, et après, Kadosh Baruch nous envoie une bracha qui est beaucoup plus forte que l'investissement qu'on a fourni. Normalement, on a toujours l'habitude qu'avec Dieu, c'est donnant-donnant. Comme la Hava. Moi, j'essaye d'aimer Akadosh Baruch Hu, et selon l'effort que je vais fournir, eh ben, je vais aimer Akadosh Baruch Hu, Dieu va m'aimer. C'est donnant-donnant. La Rachamim, c'est pas donnant-donnant. On ne pas confondre avec Avarachaman. Rachamim, c'est beaucoup plus fort, comme ce qu'on a expliqué ici. Avarachamim, c'est, il suffit de faire appel, de toucher, il suffit de faire appel à ce niveau-là, et après, Akadosh Baruch Hu, il nous donne beaucoup plus que les efforts qu'on a fournis. Exactement qu'on voit avec Yaakov. Alors, je lis un peu dans les mots, après je vais expliquer. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire le baiser spirituellement. Quand on dit qu'il a embrassé, spirituellement, ça veut dire quoi ? On a amené les Mefarshim. Mefarshim, c'était le Pshat. On avait expliqué à Pikavala, ça veut dire qu'on embrassait. L'otan ni galutan, ou l'yachadan bichud ayan or en sov baruchu, biprinat neshikin. Biprinat neshikin. Donc qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que Yaakov a embrassé Rachel. Idabkut rucha berucha. Shehi idabkut rucha berucha.
Je savais.
C'est quoi neshikin ?
Ouais,
d'accord.
Une journée chamotte.
Donc là, c'est plus un baiser sur le front, là. Hein. Ah, c'est quoi Neshikin ? C'est Idabkut Rucha Verucha.
La fusion.
Ça veut dire c'est une fusion de deux esprits qui vont s'attacher. Je veux dire comme ça. Ça veut dire que quand deux personnes vont s'embrasser,
c'est pire que je d'accord dire,
quand deux personnes vont s'embrasser, c'est pas le baiser qui va créer le sentiment. C'est le contraire. C'est le sentiment qui crée le baiser. En tout cas, ça devrait être comme ça. Ça veut dire c'est comme ils s'aiment, c'est pour ça qu'ils vont s'embrasser. Donc, Uprinat Neshikin. Il va expliquer ici qu'est-ce qui se passe. Comment on fait ? Tu me dis, c'est très beau ce que tu me dis là, qu'on va éveiller le Père de la Miséricorde. Comment je fais ? En clair, je fais quoi ? Ça va se passer dans ce fameux baiser. C'est quoi ce baiser ? C'est quand on va attacher notre esprit avec l'esprit de Dieu. Et après, vous allez voir le style de la Gemara Zaken comme on a l'habitude. Il va traduire tout de suite ça par un côté pratique. Kemo Shekatouv, Ishakeni Minshikot Piou. Où c'est écrit ça? C'est le début, hein, quand même. Ishakeni Minshikot Piou. Qu'est-ce qui est écrit dans Shirachiri? C'est écrit Ishakeni Minshikot Piou, que Akadosh Baruch Hu va m'embrasser, Minshikot Piou. Donc des baisers de sa bouche. Et qu'est-ce qui explique Rachid là-bas? De quoi on parle? D'accord. Rachid, dès le début, il dit, attention, ne faites pas l'erreur de croire que c'est un chant d'amour, au contraire. On parle du lien qu'il y a entre la Knesset Israël. D'ailleurs, c'est la seule fois dans la Torah, dans la Bible, que Rachid a écrit une introduction. Même dans le Chumash, Rachid n'a pas écrit une introduction à son commentaire. Le seul endroit où Rachid a écrit une introduction à son commentaire, c'est avant Shir HaShirim. Avant de commencer Shir HaShirim, il dit, attendez.
Il a failli ne pas être canonisé, Shir HaShirim.
Bien sûr.
Comme Kohelet, hein, il a failli rester sur le tapis. Hein.
Il est resté pendant longtemps.
Bien sûr, il n'a pas été canonisé tout de suite. Hein.
Ils ont eu peur, les Chachamim.
Très peur.
Alors, qu'est-ce qu'il dit là-bas, Rachi? Rachi dit que quand on parle de Shir HaShirim, on parle de la fiancée, donc du bien-aimé et de la bien-aimée, de qui on parle. On parle de Hakadosh Baruch Hu et de l'Assemblée d'Israël. Et là-bas, Rachi dit, quand on dit Ishaken Iminchikot Piou, quand on dit que Ishaken Iminchikot Piou, que Hakadosh Baruch Hu va nous embrasser, Rachi dit là-bas de quoi on parle? On est en train de parler des amis du Bnei Israël qui sont en train d'étudier la Torah. Que quand on étudie la Torah, on attache notre esprit avec l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Rashi, vous verrez dans Rashi sur Shir HaShirim, il dit comme ça. Itkashru dibur Hashem, bidvar Hashem zo halacha. C'est les mots de Rashi. C'est attacher la parole de l'homme avec la parole de Dieu. Quand je dis un dvar Torah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prendre ma parole. Et avec ma parole, je veux dire la parole de Dieu. Donc en d'autres termes, je suis en train d'attacher, de lier un esprit avec un autre. Ça, c'est le baiser. Ça, c'est le baiser du Jadmour Azaken. Nous, quand on entend l'histoire de Yaakov et Rachel, on a l'impression que c'est les histoires de Tzadikim, on va savoir comment ils ont fait ça. Du Jadmour Azaken, tout de suite, arrêtez tout de suite, c'est très simple. Il suffit d'étudier. Quand on étudie, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On éveille tout de suite la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Parce que quand on étudie...
Il a fait une sugya avec Rachel.
Il a fait
une sugya avec Rachel.
Non, spirituellement, explique spirituellement ce que ça veut dire. Matériellement, on a dit que Yaakov et Rachel, c'est deux personnes physiques. Mais spirituellement, elles représentent deux niveaux. Yaakov et Rachel, Rachel s'en représente.
La dvekout, ce baiser.
Oui.
Là, tu expliques que c'est une histoire de limoud.
Oui.
Ça peut être compris. Et eux,
non,
c'est quoi?
C'est une histoire de dvekout.
Oui, mais la dvekout, c'est quoi?
Alors, dvekout là-bas, c'est pas forcément du limoud. C'est deux niveaux de d'Akadosh Baruch
Hu. C'est un rapprochement de deux niveaux.
Mais nous, aujourd'hui, comment on peut faire, dans le niveau pratique, comment je peux faire un attachement de cette, comment je peux lier mon esprit à l'esprit d'Akadosh Baruch Hu par le limoud à Torah? Encore plus que par les mitzvot. Il va expliquer après que les mitzvot, c'est comme si on enlace quelqu'un. C'est la différence entre embrasser quelqu'un et enlacer quelqu'un. Bon, il va expliquer, hein, c'est Shir HaShirim. Alors, Vechen Marshava be Marshava, ou Maase be Maase, Shehu Maase Mitzvot. De manière générale. Là, il ne rentre pas encore dans le détail dans la différence entre embrasser et enlacer. De manière générale, quand on parle d'une mitzvah, donc on dit un Dvar Torah, quand on réfléchit à un Dvar Torah, et quand on fait une mitzvah, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On attache notre esprit avec l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, d'accord? On l'avait expliqué dans le chapitre 37, on avait venu du Talmud de Jérusalem, d'accord? Le Talmud de Jérusalem, il dit comme ça, il dit qu'en vérité, dans toutes les mitzvot, même les mitzvot qui sont dans la parole, comme le Limud Torah, en vérité, c'est des mitzvot qu'on peut considérer comme des mitzvot qui sont dans l'action. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est très simple, il a dit, quand on fait une mitzvah, on est la main d'Akadosh Baruch Hu pour accomplir une mission dans le monde. C'est quoi la mission qu'Akadosh Baruch Hu a dans le monde? Dieu, il a une mission, il a un but. Dieu, il a un but dans le monde, c'est de récupérer un maximum d'étincelles de Kdusha. Et quand moi, je vais dehors dans la rue et je vais réfléchir à un Dvar Torah, même si pour moi, j'ai pas fait appel à ma force de l'action, quand j'ai seulement réfléchi à quelque chose, mais c'est considéré comme si je suis la main d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que grâce à moi, je vais récupérer une étincelle d'Akadosh Baruch Hu. Donc je suis la main exécutante d'Akadosh Baruch Hu. Ayad Amvatsal. La main exécutante d'Akadosh Baruch Hu. La main qui exécute Akadosh Baruch. Moi, ça, c'est une parenthèse. Donc, pourquoi dit ça, Gemara Zaken? Pour nous dire que, quand on se pose la question, on se dit, comment je fais pour m'attacher à Akadosh Baruch, comment je fais pour embrasser Akadosh Baruch Hu? Il te dit, c'est très simple. Embrasser Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Ça veut dire lier un esprit avec un autre. C'est ça, ce que ça veut dire embrasser. Donc, encore une fois, le baiser est un résultat. Donc, spirituellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais étudier la Torah. Quand je vais étudier la Torah, de facto, qu'est-ce qui va se passer? Ma parole va se lier avec la parole de Dieu. Quand je vais réfléchir à un Dvar Torah, qu'est-ce qui va se passer? Ma pensée va se lier avec la pensée de Dieu. Quand je vais faire une action, je vais faire une mitzvah, qu'est-ce qui va se passer? Ma main va devenir la main exécutante d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'on appelle...
Par contre,
On avait la dame prote, hein.
On avait tout pour la tirer en plus, hein.
Il reste la dame prote, j'ai pas
compris. Ouais, il y a.
Bien embrasser la foi, c'est adhéré.
François, c'est
comme ça. S'attacher à quelque chose.
Ça veut dire le.
Embrasser la foi.
Alors, attends, j'ai pas fini parce qu'on va expliquer après la différence entre embrasser et enlacer.
Et habekeni.
Là, dans ce que tu dis, embrasser, c'est, ça peut adhérer, être enlacé aussi. Adhérer, voilà. On va expliquer. Vechesed ou bifrat, maaseh atzaka vechesed. Surtout, quand on est en train de faire un acte de tzedaka et de chesed. Et comme ce que je viens d'expliquer au nom du Talmud de Jérusalem, j'espère qu'on n'a pas trop donné de détails aujourd'hui, vous suivez, c'est bon ? Vous me dites, hein, si...
On est là, on a une question qui arrive.
Comme ce que je viens d'expliquer au nom du Talmud de Jérusalem, qu'en vérité, toutes les mitzvot, c'est un chesed. Dans toutes les mitzvot, c'est considéré comme une tzedaka, puisqu'on est la main exécutante d'Akadosh Baruch Hu. C'est chesed des rois Yemina.
Ouais.
C'est comme ça. Chesed, c'est appelé dans le Zohar des rois Yemina. Chesed roi Yemina, ça on le dit dans le Patach Eliyahu.
C'est droit, ça veut dire, le bras droit.
Ça veut dire chesed, c'est le bras droit.
Dalet Zezaï, il en aura bien.
Ou prinat, chibouk mamash. Il va expliquer la différence qu'il y a entre embrasser et enlacer. Le dalet et le zaïn.
Le dalet, zaïn, c'est-à-dire
qui... Le haïn et le dalet, etc. Le dalet et le zaïn. Quand? Alors, ou prinat, chibouk mamash, que moi je sais qu'à tout comme c'est écrit, vimino techabkeni. Toujours dans Shira Shirim, à un certain moment là-bas il dit, et sa main droite, techabkeni m'enlace. Il dit comme ça, il dit, smolo tachat le roshi. Il dit sa main
gauche
sous ma tête.
Et la droite,
Vimino Techabkeni.
D'accord. C'est une clé.
Et la droite.
Il était là, il nous aurait dit c'est une clé de bâton. De
et la droite, elle m'enlace. Donc c'est comme deux personnes qui sont en train de s'enlacer. D'accord. Là, il étreint, là. D'accord.
Oui, kringle.
C'est plus que. C'est, alors ça, c'est enlacé. Chesed de roi Yemina. Veu prina tribouk mamash ke moshe katouv. Comme on a dit, Vimino Techabkeni. Donc c'est quoi Vimino Techabkeni? Vimino Techabkeni, ça veut dire c'est quand on est en train de faire une mitzvah, on est en train de permettre à Akadosh Baruch Hu de nous enlacer. Pourquoi? Comme ce que je viens d'expliquer au nom des amis de Jérusalem, qu'on devient à ce moment-là la main exécutante d'Akadosh Baruch Hu. Donc puisque je deviens la main exécutante d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il m'enlace, et quelque part, ce que je suis en train de faire, c'est comme si c'est lui qui est en train de le faire. Comme ça il explique le Zohar. Vimino Techabkeni. Dans le Midrash, il raconte que le deuxième jour de la création du monde, quand Akadosh Baruch Hu a séparé les eaux donc du ciel et les eaux de la terre, donc Maïm Tartanim et Maïm Elyonim, alors le Zohar raconte la chose suivante, le Midrash, et le Zohar aussi il ramène ça, il dit que lorsque Akadosh Baruch Hu a séparé entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est écrit que Maïm Tartanim Bochim, les eaux d'en bas elles pleurent, ils disent Afanan Bainan Lemeve Kadam Malka. Ils disent nous aussi on a envie d'être devant le roi. C'est une image. Pour dire que, quand Akadosh Baruch Hu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, qu'est-ce que ça veut dire? On a l'impression que c'est simplement physique, d'accord? C'est beaucoup plus que ça. Séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est le processus de la création du monde, c'est-à-dire que quelque part, Akadosh Baruch Hu a séparé les étincelles divines qui sont en bas de ce qui se passe en haut. Il les a détachées. Et nous, quand on fait une mitzvah, et ces eaux qui sont en bas, ils sont en train de pleurer constamment à Akadosh Baruch Hu. Ils disent, mais on veut revenir, on veut retourner, on en a marre! On veut pas rester en bas. Nous, on veut rester en haut, on veut revenir en haut. C'est ça, les eaux qui sont en train de pleurer. Et nous, les eaux d'en bas. C'est les eaux d'en bas qui pleurent, qui disent on a envie d'être nous aussi devant le roi. Parce que ces étincelles d'Akadosh Baruch Hu sont éparpillées dans le monde, elles sont détachées d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, attends, je conclue. Non, ça c'est matériellement. Ça c'est matériellement. Matériellement, on dit qu'avant le monde était une grande bulle d'eau, Akadosh Baruch Hu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et qu'il a créé un système de rotation avec les nuages, etc.
Les
eaux d'en haut ?
Elles sont en haut.
Bah oui, elles sont en haut. Où tu veux que
ça ? J'arrête, oui, là ?
On connaît pas les eaux d'en haut aujourd'hui.
Ça reste vers ça, là ?
Aujourd'hui, on connaît que les eaux d'en bas.
Je comprends pas d'où ça commence à faire.
C'est écrit quand il y a eu le Maboul, Dieu a ouvert les eaux d'en haut. Nous, on connaît pas les eaux d'en haut aujourd'hui. Parce que nous, aujourd'hui, la pluie qu'on reçoit, c'est les eaux d'en bas. C'est la mer qui vient, qui fait des nuages, qui retombe. C'est l'évaporation. Donc on connaît pas les eaux d'en haut. C'est écrit que quand Akadosh Baruch Hu a fait le Maboul, il a fait un miracle que les eaux d'en haut se sont ouverts. Je ne sais pas ce que c'est physiquement. Je ne sais pas si on explique ça physiquement aujourd'hui. Les eaux d'en haut, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, on sait ce qu'il y a dans le ciel ? Je ne sais pas. On est parti jusqu'au fond, on sait ce qu'il y a jusqu'au fond ?
Non,
je ne sais pas. Physiquement, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, Rachid dit clairement, il dit que quand Akadosh Baruch Hu a fait le Maboul, quand Akadosh Baruch Hu a envoyé le déluge, il a ouvert les eaux d'en haut. Bon. Alors, pourquoi on a fait cette... Donc, ça, ce que tu expliques, c'est la question que tu as posée, c'est matériellement. Matériellement, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Spirituellement, c'est quoi les eaux d'en haut, les eaux d'en bas? C'est quoi les eaux d'en bas? Les eaux d'en bas, c'est toutes les étincelles de l'Akadosh Baruch Hu qui sont éparpillées en bas. Qui sont éparpillées en bas et qui, quelque part, ont été détachées de leur source. Et ces eaux d'en bas, ces étincelles, sont en train de pleurer constamment à Kadosh Baruch Hu, de lui dire « Afanan, Bainan, Lemeze, Kadam, Malka !» Nous aussi, on a envie de revenir Kadam, Malka devant Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, il ne peut rien faire. Enfin, Kadosh Baruch Hu ne peut rien faire parce qu'il leur dit « Mon plan, c'est que c'est Am Israël, c'est les Bnei Israël qui doivent venir ici pour vous récupérer. C'est pas de ma faute. D'accord ? C'est Am Israël qui doivent venir vous rechercher. » Et quand un Israël va faire une mitzvot, quand je vais faire une mitzvot, même si pour moi je crois que je suis en train de rien faire du tout, en vérité à ce moment-là, je suis la main exécutante d'Akadosh Baruch Hu, je fais un chesed d'Akadosh Baruch Hu. Avec ça on comprend ce qu'il dit dans Baruch Shama, on dit Baruch Merachem à la Haaretz, Baruch Merachem à la Briot. D'accord ? Qu'est-ce qu'on dit ? On dit Baruch Merachem à la Haaretz, Baruch Merachem à la Briot. Akadosh Baruch Hu, il a pitié sur la terre et il a pitié sur les créatures. Quel rapport entre les deux ? Avoir pitié sur la terre, avoir pitié sur les créatures. D'accord ? Et une des explications qu'on dit sur ça, c'est quoi? C'est qu'en vérité, de quel rachamim on parle ici? On parle de la rachamim qu'Akadosh Baruch Hu il a envers ces étincelles qui sont perdues dans le monde, et que comment Akadosh Baruch Hu a pitié de ces étincelles-là, c'est quand il nous encourage à faire une mitzvah, que grâce à nos mitzvot, on va devenir la main exécutante d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, on est enlacé par Akadosh Baruch Hu puisqu'on devient la main exécutante d'Akadosh Baruch Hu. Bon, donc ça c'est, je vais pas trop rentrer dans les détails. En tout cas, c'est comme ça qu'il explique ici avec Moraz Aken la différence entre le baiser et l'enlacement. Lequel est plus fort ? C'est important d'expliquer ici. Le baiser. Parce qu'on a dit que dans le baiser, c'est deux esprits qui se lient, qui deviennent un seul esprit. Alors que quand deux personnes s'enlacent, ils ne deviennent pas une seule chose. Quand deux personnes s'embrassent, à ce moment-là, ils deviennent un seul élément. Ils d'abkoud rucha ve'rucha, ils deviennent collés, ils deviennent un seul élément. Comme il dit, vedavak be'ishto, Ve'ayou, les bassards echad. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que embrasser quelqu'un, se coller avec quelqu'un, c'est-à-dire devenir un. Ça, c'est l'imouda Torah. L'imouda Torah, Adam. L'imouda Torah, c'est quoi? L'imouda Torah, c'est se coller, devenir un avec la chose. Les mitzvot, et on a dit qu'en vérité, c'est pas que les mitzvot, mais c'est tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est-à-dire tous les actes qu'on est en train de faire ici, c'est quelque part un chesed qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Donc si c'est un chesed qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, on devient la main exécutante d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est comme si Akadosh Baruch Hu nous enlace, et que quelque part, nous on le tire avec lui, et lui nous tire avec nous. C'est ça, quand deux personnes ils s'enlacent, quand, qu'est-ce qui se passe? Il y a un qui attrape l'autre, d'accord? Chacun s'attrape. Comme ça, smolo tachat le roshi, vimino techab keni. Si vous réfléchissez, qu'est-ce qu'on dit? On dit smolo tachat le roshi, vimino techab keni. Sa gauche est sous ma tête, donc ça veut dire que lui il m'enlace. Vimino techab keni, et sa main droite elle m'enlace. Et moi qu'est-ce que je fais entre temps? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Normalement, c'est la même chose. Et c'est ça ce qui se passe quand on fait une mitzvah. Vos prinat tribouk mamash, que moi je crée une minute ravkini. Alors, où j'en ai? Où j'en suis? V'esek. Je suis à une qui commence V'esek. V'esek, donc ça, il fallait s'y attendre avec la de Moraz Aken. Hein. Il n'allait pas juste nous expliquer un petit pirouge comme ça sur Yaakov et Rachel sans nous amener une application pratique. V'esek à Torah bedibour. Ou marchevet ayun. En neshikin mamash. Il nous explique la de Moraz Aken. Le fait d'étudier la Torah, be'iyun, ça veut dire avec approfondissement, s'approfondir. Parce qu'encore une fois, on a dit que c'était quoi le limouda Torah? Limouda Torah, c'est devenir un avec quelque chose. Ça veut dire que Dieu, la Torah et moi, ça fait une seule chose. Ça peut être accessible que dans le limouda Torah, be'iyun, quand on étudie la Torah, en approfondissant la Torah. Alors ça veut dire quoi, étudier la Torah en approfondir? Le baiser. Alors, Moraz Aken, il explique dans le Chot Talmud Torah. Il a écrit, Moraz Aken a écrit dans son Shulchan Aruch.
Très calme, hein.
Quand? Le baiser, enlacé.
Shirachirim,
c'est ça.
Shirachirim tout craché.
Donc, l'Admoraz Aken, il a écrit Ilchot Talmud Torah. C'est-à-dire, il a écrit un Shulchan Aruch. Et dans ce Shulchan Aruch, il a écrit aussi les Ilchot Talmud Torah, les lois de l'étude de la Torah. D'ailleurs, on raconte chez les Chassidim que une des premières choses que l'Admoraz Aken a écrit avant Tanya, c'était les Ilchot Talmud Torah. Et c'était au moment dans lequel la marloquette qu'il y avait entre les chassidim et le mitnagdim était très très fort. Alors il y a eu un chassid qui a eu l'idée, apparemment sans, je ne sais pas s'il en a parlé de Moraz Aken, il en a pas parlé de Moraz Aken. Il a pris les Ilchot Talmud Torah de Moraz Aken, qui sont réputés pour... c'est un vrai chef-d'œuvre, les Ilchot Talmud Torah de Moraz Aken. Parce que bon, vraiment, il a... C'est sur 4-7... Il y a dans le Shulchan Aruch. prendra qu'on parle rapidement, très vaguement. Mais Ilkhot Talmud Torah de Morazaken, c'est vraiment une construction, c'est magnifique. C'est vraiment très très bien fait. C'est une des premières choses que Morazaken a écrit. Donc il y a eu un petit futé qui a pris le recueil. Je crois qu'il y a 8 chapitres dans Ilkhot Talmud Torah de Morazaken. Pour vous dire à quel point c'est profond, il y a un rave en Israël qui s'appelle le Rav Ashkenazi, qui a écrit un commentaire sur les Ilkhot Talmud Torah de Morazaken. Et je crois qu'il n'a pas encore fini son commentaire, il en est déjà à 9 livres. 9 livres sur Ilkhot Talmud Torah, sur 8 chapitres de Morazaken. Parce que chaque mot, c'est des allusions et des... Il y a des milliers de références. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ce chassid-là ? Il a pris ces 8 chapitres-là, sans écrire le nom. Sans écrire le nom, il a fait un fascicule comme ça, il a répandu dans toute la ville de Vilna. Et on raconte que ce fascicule est arrivé devant les Mitnagdim, il est arrivé devant le Gaon de Vilna.
Ça chauffe.
C'est raconté, hein, c'est quelque chose qui est raconté chez les Mitnagdim.
Sans vodka, ça chauffe.
Donc, c'est arrivé chez le Gaon de Vilna, et le Gaon de Vilna était très impressionné. Très impressionné de...
Qui a écrit ça ?
Le Gaon de Vilna, ça racontait comme ça. Il a dit que celui qui a écrit ça, il a un esprit aussi clair que les Tanaïm. Ça, je vous le dis, je l'ai lu dans un livre qui a été écrit par les Mitnagdim. Et après, quelques mois plus tard, ils ont su qu'en vérité, c'était un texte de Morazaken. Ils étaient furieux.
La déclaration était faite déjà.
Oui, la déclaration était faite. D'ailleurs, on raconte même que...
On m'a dit que c'était à cause du porte-parole, simplement ?
Attendez, le Gaon de Vilna, par la suite... Le Gaon de Vilna, quand il voulait savoir ce qui se passait avec les chassidim, donc il a demandé à une des personnes, qui malheureusement s'est avérée après comme quelqu'un qui a quitté le droit chemin, il lui a demandé d'aller enquêter sur les chassidim. Et cette personne-là, il est parti chez Admor Hazaken, et cette année, Tisha B'Av tombait Shabbat. Donc il est venu chez Admor Hazaken, et il lui a demandé est-ce qu'ils pouvaient manger ensemble quelque chose. Donc ils sont assis sous les shlichis, ou le repas de Shabbat, ils ont mangé. Ensuite, après, il est revenu chez le Gaon de Vilna, et il a dit, j'ai vu l'Admor Hazaken, enfin, il s'appelait pas encore l'Admor Hazaken, manger le 9-Av. Alors qu'en vérité, bon, c'était pas le 9-Av, c'était un sabbat. Et l'Admor Hazaken leur a demandé, est-ce que vous me jurez sur le Sefer Torah qu'il a mangé le 9-Av? Ils ont dit, oui, on jure sur le Sefer Torah. Ils n'ont pas menti. C'est vrai, il a mangé le 9-Av. C'était Shabbat.
Non,
et comme ça, il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs histoires par lesquelles on voit que quelque part, hein,
dans la cour de récréation, il oublie les mecs. Ouais. Il pose pas la question de femme, qu'elle ne va et tout.
Ah. Elle s'est racontée chez... C'est...
Non, je ne dis pas le contraire, mais je dis quand même.
Il y a beaucoup d'histoires.
Il y a des gens qui se tirent dessus, on dit attends, dis-moi tel détail, machin. On sait que vous adorez, il faut vérifier. Hein.
Il y a beaucoup d'histoires, hein. Il y a beaucoup de détails qu'on voit dans les histoires qu'il y a eu entre les chassidim et les mitnagdim, surtout à ce moment-là, entre le Gaon de Vilna et l'Admor Hazaken. Ça nous montre que quelque part, Akadosh Baruch Hu voulait de cette machloket. On voit qu'il y a tellement de détails. Ou bien, par exemple, on nous raconte, on dit qu'à un certain moment, l'Admor Hazaken, il a dit, mais c'est pas possible, on va aller voir le Gaon de Vilna, on va lui parler. Donc il est parti avec Rabbi Nachman de Vitebsk. Ils ont dit, on va aller, on va parler, on va discuter, parce que c'était des pasquilles. Pasquilles, comment on dit en français, c'est des... Non, comment on dit quand on écrit un texte sur quelqu'un de manière anonyme ?
Biographie ? Non, on appelle des... Non, on ne dit pas que c'est un truc anonymé. Hein.
J'ai oublié un nom. Quand même. Bon. Oui. En hébreu, on dit un pasquille. Enfin, c'est l'idiche.
Oui.
Une dénonciation.
Non, c'est pas une dénonciation. Il y a un nom, il y a un mot en français.
Pour dire que quoi ?
Quand on écrit quelque chose, enfin on placarde quelque chose sur les murs, sur les rues par exemple, mais sans signer le nom. Bon, quoi qu'il en soit.
Jacob ? Il pense à Rabbi Jacob.
Non, c'est pas différent. Non, il y a un nom. Il y a un nom spécial pour ça. Et à ce moment-là, tout se jouait comme ça.
On va aller le voir.
C'est la mort. Et il est parti le voir. Et l'histoire raconte que dès qu'il arrivait au Cloise. Le Cloise, c'était le Beth Midrash du Gaon de Vilna, on l'appelait le Cloise.
Le Cloise,
on l'appelait. Il arrivait, c'est comme ça, le Cloise, c'est-à-dire le petit quartier du Gaon de Vilna. Il est rentré au Cloise du Gaon de Vilna. L'histoire raconte, encore une fois, c'est l'histoire qui sont racontées des deux côtés, hein, que le Gaon de Vilna, quand il a vu le visage de Admor Hazaken, il s'est sauvé par la fenêtre. Et il s'est parti se cacher. Et il a raconté après, il a dit que il a vu une lumière qui sortait du visage d'Admor Hazaken, il a eu peur que c'est les forces du mal qui allaient le prendre. Ça veut dire, on voit, il y a tellement de détails, par lequel on voit qu'apparemment c'était Mina Shamaim. Il a vu une lumière tellement forte qui sortait, il a vu dégager une énergie tellement forte, et pour lui, l'Admor Hazaken, la Tracilout, c'était le mal. Donc il s'est dit, il va être capable de me convaincre encore, donc il est sauvé.
Ça c'est côté fatidique, les histoires et côté.
Non, c'est des deux côtés, hein, attention.
Il y a de Gim,
avantage.
On a vu des transformeurs, le mec, on l'a remarqué.
Ça c'est Mitnagdim. Il y a des histoires des deux côtés, d'accord. Des histoires des deux côtés, c'est sûr. Des histoires des deux côtés, on raconte des choses sur les chassidim, etc. Des choses qui sont... Non, c'est, moi ce que je dis c'est que il y a eu des problèmes qui sont passés des deux côtés. Et il est clair que quand on voit l'histoire maintenant avec du recul, on voit que c'est pas normal qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait des détails qui étaient complètement faux. Par exemple, on disait que les chassidim se comportaient contre la race, qui était faux, ce qui a toujours été faux. Beaucoup de détails comme ça, qui montrent que à quelque part, Akadosh Baruch Hu voulait tout ça. Pourquoi je raconte tout ça? Où j'en étais?
Alors, et ceux qui disent qu'Akadosh Baruch Hu voulait tout ça, ils disent pourquoi Dieu il voulait tout ça?
Je sais pas.
Ça veut dire que Dieu il voulait qu'il y ait une marloquette aussi aiguisée entre deux clans aussi importants. Pourquoi est-ce que vous voulez ça? Il y a quelque chose qui est sorti de cette marloquette?
Moi j'ai lu un pirou, j'ai dit qu'en vérité à ce moment-là, il y avait un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu tellement fort que si la chassidoute, donc si les chassidim et les mitnagdim se seraient unis, Mashiach aurait été obligé de venir. Et c'était pas encore le moment. Le monde n'était pas prêt. Bon, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe à Akadosh Baruch Hu. Certainement que quand Mashiach viendra, Dieu nous montrera comment tout ça est dit bien. Mais quand on voit l'histoire avec du recul, et je peux vous dire que moi, Baruch Hashem, j'ai assez étudié ce sujet, quand on voit l'histoire avec du recul, on voit que c'est pas normal. On voit qu'il y a des détails qui collent pas. C'est pas possible qu'ils n'ont pas fait attention. De côté. Alors, pourquoi j'ai raconté ça? Emprinat Neshikin Mamash. Alors, V'esek HaTorah. V'esek HaTorah Bedibo. On marche avec Ayun. Pourquoi j'ai raconté? Comment je suis arrivé à ça? Si je me suis évadé. Ah, Ichot Talmud Torah, oui, dans... Ah, voilà, Chazak. Ichot Talmud Torah.
Quel sadique. Il est incroyable, hein.
Sans bourra.
Et il est sorti, il est rentré, il est mieux.
Il est rentré, il est avec nous.
Ah, comme quoi, hein.
Dans Ichot Talmud Torah...
La bourra, il était resté, mais... Moi, je serais passé par la fenêtre, hein.
Dans Ilkhot Talmud Torah, la Gemara Zaken explique là-bas que c'est quoi la définition, donc ces fameuses Ilkhot Talmud Torah. Il démontre là-bas la Gemara Zaken que qu'est-ce que c'est Iyun, qu'est-ce que ça veut dire s'approfondir dans la Torah. Il dit que c'est quelque chose qui dépend de chaque personne. Et il dit comme ça, il dit qu'une personne qui est capable de s'approfondir dans l'étude de la Torah, s'approfondir, et que bon, il va étudier la Torah de manière chitri, ça veut dire de manière globale, de manière superficielle, d'accord. De manière superficielle.
Il a pas voulu dire ça parce que ça lui semblait péjoratif.
Oui. Il n'est pas quitte de la mitzvah de l'Imouda Torah. On explique là-bas, il dit que la mitzvah de l'Imouda Torah, c'est quoi? C'est d'apprendre la Torah selon ses capacités. Et plus on est intelligent, et plus on a la possibilité d'approfondir, et plus on a l'obligation d'approfondir. Après, bon, il a un développement dans lequel il dit qu'on a l'obligation de faire un petit peu de bekiout, un petit peu de yun, ça veut dire un petit peu d'études, un petit peu de quantité, un petit peu de qualité, ça c'est déjà des détails. C'est ce qu'il dit Admor HaZaken ici. Qu'est-ce qu'il dit Admor HaZaken? Il dit que quand on va étudier la Torah Be'iyun, Be'iyun, ça veut dire en approfondissant. Et ce que je viens d'expliquer, c'est que ça, c'est quelque chose qui dépend de chaque personne. C'est pas le Iyun de Reuven n'est pas le même Iyun de Shimon. Ça va dépendre de chaque personne. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Em Prinat Neshikin Mamash, c'est le baiser qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Quand je vais prendre tout, ça veut dire quoi? C'est quoi le Iyun? C'est je prends toutes mes capacités, toute mon énergie, toute ma capacité de réfléchir, et je la donne à Kadosh Baruch Hu. Je dis, tout mon cerveau, je le donne à Kadosh Baruch Hu. Je vais utiliser tout mon potentiel pour réfléchir à la Gemara que je veux comprendre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, je vais avoir un baiser avec Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que ma capacité de réfléchir et la Torah vont former une seule entité. Iné, allié des Zé. Grâce à ça, quand on va arriver à ce niveau-là, alors on nous dit l'admor Azaken. Yachol lavo l'iprinat avaraba bidgalut libo kidirtiv le Yaakov asher pada et Avraham. Le verset dans Isaïe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Yaakov a racheté Avraham. Je crois que Yaakov a racheté Avraham. Je veux dire, il dit comme ça. Je vais expliquer ici qu'il y a des gens que toute leur vie ils vont essayer d'aimer Akadosh Baruch Hu, mais ils n'arrivent pas. Avraham, on l'a dit, ça représente quoi? L'amour à Akadosh Baruch Hu. Aimer Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens, surtout que plus on avance dans la religion, et on va développer une crainte envers Akadosh Baruch Hu, c'est relativement facile. Parce que c'est ce qu'on fait, on sait très bien que c'est assaut, que c'est pas bien, etc. Mais développer un amour envers Akadosh Baruch Hu, même si ça a l'air plus simple au début, mais en vérité c'est beaucoup plus compliqué. Comme on l'a expliqué plusieurs fois dans le cours de Tania. Développer un amour envers Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus compliqué. Le problème qu'on a, c'est que des fois, quelqu'un, il essaye d'aimer Akadosh Baruch Hu, il essaye de sentir qu'il aime ce qu'il fait. On ne parle pas de quelqu'un qui ne fait pas Torah Mitzvot. D'accord? Admor HaZaken, on n'est pas en train d'encourager quelqu'un à faire Shabbat ici. Il fait déjà Shabbat. On est en train d'encourager quelqu'un à se sentir in dans ce qu'il fait, à sentir qu'il est dans le coup. Et des fois, la crainte, je l'ai. Mais je ne sens pas que j'ai la Ahava. Je ne sens pas que j'aime Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui va m'amener cette Ahava? Grâce à quoi je vais récupérer cette Ahava, cet amour-là? Les Yaakov, Sherpada et Abraham, c'est Yaakov qui va racheter Abraham. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ayant pitié de moi, donc ce qu'on a expliqué ici, en ayant pitié de moi, de me dire, mais comment c'est possible, avec tout ce que j'étudie, avec tout ce que je fais, comment c'est possible que je ne suis pas in, que je ne suis pas dedans? En ayant pitié de moi, qu'est-ce qu'on a dit à ce moment-là? On fait appel à quel niveau? Pas Avarachaman. On fait appel au niveau de Avarachamim. Avarachamim, ça veut dire quoi? Avarachamim, ça veut dire qu'on fait appel au niveau d'Akadosh Baruch Hu, au niveau d'Akadosh Baruch Hu, qui est la source de la miséricorde. Là, qu'est-ce qu'il dit à Admor HaZaken? Là, à ce moment-là, c'est là qu'on va se mettre à aimer Akadosh Baruch Hu. On a retrouvé cet élément-là chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lorsque Akadosh Baruch Hu l'envoie en mission, il lui dit, tu vas sauver le peuple juif. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il
non
dit...
Non merci.
Lamazé chez l'Artani. D'accord? Pourquoi tu m'envoies? Plus tard, quand il commence à sortir le peuple juif, il y a la première galère qui arrive. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu dit, Maessé Lamazé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce peuple? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on voit clairement que Moshe Rabbeinu avait du mal à avoir un sentiment d'amour constant envers le Ham Israël. C'est clair? C'est le texte. À quel moment ce sentiment est venu? À quel moment, à partir de quel moment Moshe Rabbeinu n'a plus rien dit? Et il est resté attaché au peuple juif, ad vitam aeternam, sans arrêt. On n'a plus revu après que Moshe Rabbeinu s'est mis à chaque fois à redire, mais j'en ai marre, etc. À quel moment ça s'est passé? Quand Akadosh Baruch Hu lui a dit, laisse-moi, je vais effacer ce peuple. Laisse-moi, je les efface, je te fais un nouveau peuple. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Akadosh Baruch Hu a fait appel à la rachamim de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, a eu pitié sur l'âme Israël. Et une fois qu'il a eu pitié sur l'âme Israël, il a eu un niveau de Havat Israël, d'amour, tellement fort, c'est un amour qui n'a plus bougé. Pourquoi je dis ça ici? Pour expliquer que des fois, quand on a du mal à aimer quelque chose, comme quelqu'un il a du mal à aimer Akadosh Baruch Hu, des fois c'est en ayant pitié de soi, c'est des fois le sentiment de pitié qui va amener un sentiment d'amour éternel, comme ce qu'on a vu chez Moshe Rabbeinu. C'est ça ce que le verset dit, les Yaakov, Asher Pada et Abraham. C'est Yaakov qui va racheter Abraham. C'est grâce à Yaakov qu'on va voir la Midat HaRachamim. Avec ça, Admor HaZaken, avec ce chapitre, le chapitre 45, on a conclu la première technique pour arriver relativement, de manière assez rapide, à servir à Kadosh Baruch Hu par amour, à se sentir in, c'est en passant par la Rachamim, en ayant pitié de soi, en se disant, c'est pas bien, je suis pas bien, il faut que je me remette, c'est pas normal. Attention à ne pas confondre avec la dépression. On avait expliqué longuement dans les chapitres... chapitre 27, 28, 29, vous rappelez toutes les dépressions qu'on avait expliquées.
Quand?
Ah oui, on avait expliqué que la dépression, jamais. Mais, par contre, avoir rachamim sur soi, de temps en temps, dans des moments que, pas des moments que le Yetzara décide, si de temps en temps je réfléchis à avoir rachamim sur moi, ça veut dire de temps en temps je me dis, attends, aie pitié de toi, tu vois pas que t'es loin? Je vois pas que je suis loin? Eh bien, ce sentiment-là, nous dit Admor HaZaken, non seulement qu'il n'est pas négatif, mais au contraire, c'est un sentiment qui va amener la Avat Hashem, c'est au contraire un sentiment qui va me propulser à aimer Akadosh Baruch Hu. Alors là, on revient à ce qu'on avait expliqué dans le chapitre 28. Dans le chapitre 28, on a dit oui, mais le problème qu'on a, c'est que des fois, des gens, ils ont ce sentiment-là, ils ont le sentiment de pitié sur eux, et non seulement qu'ils n'avancent pas dans le Torah et Mitzvot, mais au contraire, ils lâchent tout, hein, la fenêtre ou la corde. Alors, c'est quoi la solution? Là-bas, Admor HaZaken avait expliqué la chose suivante. Il a dit qu'il faut bien faire la différence quand ce sentiment vient du Yetzer Hara ou du Yetzer Tov. Dit comme ça. Si en plein milieu de la journée, comme ça, je suis au boulot, ou je suis en train de faire ma tefila, et tout d'un coup j'ai un sentiment qui vient, je dis, je suis vraiment pitoyable. On devrait avoir pitié de moi, je suis un naze. C'est sûr que ça vient du Yetzer Hara. Que le Yetzer Hara, il est en train d'essayer de me faire tomber. Et même Admor HaZaken avait dit là-bas, il avait dit que tu peux être sûr, Badou Koumenousse, c'est sûr à 100%, que si tu laisses ce sentiment rentrer en toi, quelques instants plus tard, le Yetzer Hara va te convaincre à faire une avéra. C'est sûr. Il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute. Là, ça vient du Yetzer Hara. À quel moment je sais que ça vient du Yetzer Hara? C'est si je fais une analyse personnelle. C'est pas le sentiment qui vient comme ça tout d'un coup. Si je m'arrête à un certain moment, je fais un inventaire de ce qui se passe. Et je réfléchis. Avant Rosh Hashanah, avant Kippour, ou la veille de Rosh Chodesh, ou le lendemain de Rosh Chodesh, ou le jour de Rosh Chodesh, quand vous voulez. Je fais mon inventaire, et je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et j'ai pitié de moi, je dis, attends, faut faire teshuva. Ça, c'est un sentiment qui vient du Yetzer Hara. Et non seulement c'est un sentiment qui vient du Yetzer Hara, mais c'est un sentiment qui va ramener la Avat Hashem. Alors pour finir, je voudrais finir avec une petite surprise. Ramener...
Ah, surprise !
Ouais, une petite surprise. Dans l'esprit de ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Mirtav Meliaou.
Ah, c'est une surprise.
Mirtav Meliaou du Rav Dessler. Du Rav Dessler, c'est le Moussa. Vous allez voir comment...
Comment ça, c'est quoi?
Alors, c'est...
Attendez, je vais vous dire quelque chose du Mirtav Beliaou.
Mais c'est quoi Mirtav?
Et vous allez voir, ça va confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure. Que quelque part, c'était voulu par un Kadosh Baruch Hu, ce qui s'est passé.
Alors, Rav de Serre, du siècle contemporain.
Biur Inyan Midat Arachamim.
Une des références, en tous les cas.
Biur Inyan Midat Arachamim.
Oh.
Alors, page 8. Biur Inyan Midat Arachamim. Dis la chose suivante.
C'est ce livre depuis longtemps, ça se voit.
Alors, il dit comme ça.
Il n'est pas très jugé.
Un petit peu quand même.
Il vient sortir de là.
Non, c'est une ancienne version.
Donc, il ramène là-bas la chose suivante. Il ramène au nom du... Donc, il ramène au nom Aloza Shashanualav, Nisimalav Nivenir'e, Echa Grach Mevaro. Donc, il ramène ce que le Rabbi Chaim de Volozhin explique. Donc, Rabbi Chaim de Volozhin, il a écrit un livre qui s'appelle Nefesh HaChaim. Nefesh HaChaim, officiellement, c'est un livre qui a été écrit pour contrer le Tanya. D'accord, Nefesh HaChaim.
Officiellement.
Attendez, vous allez voir.
Non, c'est important. Hein.
Vous allez voir, vous allez me dire
comment En quoi il contre. Il est d'accord avec lui.
Rabbi Chaim de Volozhin, il a écrit un livre qui s'appelle donc Nefesh HaChaim, et Rabbi Chaim de Volozhin, c'était l'élève principal du Gaon de Vilna. Il dit comme ça, sur la Midat HaRachamim. Ki kama midot, she'at tzadik, tarar ve'yagal ha'asigam, que plusieurs midot, plusieurs traits de caractère, qu'un tzadik s'est fatigué pour les atteindre, levana v'acharav, pour ses enfants qui vont le suivre, em kemo teva mudva, ça sera comme une nature ancrée en eux. Ça vous dit quelque chose? Ou Viktsat Yagia, Yagi ou Lazé. Et avec très peu de fatigue, ils arriveront à ça. C'est pas fini. Il continue encore au nom du Rabbi Chaim de Volozhin. Kemo Shinir Ebechush, comme on voit clairement. Chez Rabbi Mehameharet chez Bayoudim, beaucoup de Hameharet, c'est-à-dire de gens simples et ignorants qui achètent les juifs, Mosri Matatsam al Kiddush Hashem. Ils donnent leur vie pour Kiddush Hashem.
Ah, ça nous rappelle quelque chose.
Veo Mudba Banu, Me Avraham Avinu. Ça nous est ancré en nous, de Avraham Avinu. Chez Massar Nafsho le Urkazdim Alimunato qui a donné sa vie dans la fournaise pour sa Emouna. Et après il explique longuement comment la Midat HaRachamim est ancrée en nous. Et donc il développe autour de Rabbi Chaim de Volozhin. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 3 ans on avait raconté qu'un des descendants de Rabbi Chaim de Volozhin, il avait dit que quand on analyse Nefesh HaChaim et le Tanya, on voit que même si ça a été construit de manière différente, ça a été formulé de manière différente, mais on voit énormément de similitudes. De là, on voit que quand Akadosh Baruch Hu avait décidé de dévoiler un secret, ils ne sont même pas concertés. Hein. Quand Akadosh Baruch Hu a décidé de dévoiler un certain secret, il dévoile pour tout le monde. Regardez, ça, c'est, on n'arrête pas de parler de ça dans le Tanya. On n'arrête pas de dire qu'il faut savoir qu'en vérité, on a hérité ça de nos patriarches, et que c'est facile, et que c'est pas difficile. On l'a vu dans le Tanya, Rabbi Chaim de Volozhin, sans qu'il se concerte. Hein. Rabbi Chaim de Volozhin, il a dit exactement la même chose. Officiellement, il a écrit ce livre pour contrer le Tanya, sans voir le Tanya. Il n'a pas vu le Tanya quand il a écrit ça.
Alors comment il sait ce qu'il va contrer si c'est pas ce qu'il va contrer?
Pour contrer la chassidout.
Oui, mais la chassidout.
Il l'a pas vu. Il dit clairement, il témoigne qu'il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Il l'a pas vu.
D'accord, mais il contre quoi?
Il contre les idées de la chassidout.
Sans les avoir étudiées, comment on peut contrer?
Ils ont Rabbi Chaim de Volozhin. Rabbi Chaim de Volozhin a écrit son livre un petit peu après le Tanya.
Ouais.
Et ça, ces concepts-là, il témoigne Rabbi Chaim de Volozhin. Il témoigne qu'il l'a pas vu. Qu'il avait pas vu le Tanya quand il a écrit son livre Nefesh HaChaim. Le livre Nefesh HaChaim a été diffusé pour contrer le Tanya. Et il avait pas vu le Tanya. Et là, de ça, il avait expliqué le Rav Soloveitchik. Rav Soloveitchik, il avait expliqué quand il avait participé à un Fabringen de Yutet Kislev, chez Chabad, donc à Boston,
le
Yosef Dov, de Boston. Il avait dit que quand on analyse, et lui, il connaît Nefesh HaChaim, Yosef Dov, le Grid.
Vous connaissez Moshe?
Moshe, c'est un autre, je ne parle pas de Moshe, je parle de Yosef Dov Soloveitchik, qui est Niftar il y a à peu près 30 ans d'aujourd'hui. On parle pas du même. Alors,
qui vivait?
Qui vivait à Boston.
Et celui qui
on l'appelait d'ailleurs fait, le...
C'est Moshe.
Moshe. Et il dit qu'on voit qu'il y a énormément de similitudes. C'est pour ça que je vous dis. On voit vraiment des choses. Moshé. Quand j'ai lu ça, quand on lit la suite, on voit qu'on a l'impression qu'on est en train de lire du Tanya. C'est dans le Biur Inyan Midat HaRachamim. On a l'impression qu'on est dans le Pérec du Tanya. Parce qu'il y a beaucoup d'idées qui se retrouvent. Ça, c'est ce que la Gemara Zaken.
C'est la Torah, tous les deux.
En tout cas, nous, on l'a étudié dans le Tanya. C'est ce que l'Admorazaka nous explique ici par rapport à Midat HaRachamim, que quand on sent qu'on a du mal à aimer un Kadosh Baruch Hu, et quand on sent qu'on a du mal à aimer quelqu'un, on a du mal à aimer sa femme, on a du mal à aimer ses enfants qui vous voulez, il faut savoir que des fois, en faisant appel au niveau de Rachamim, en ayant pitié sur soi, en se disant, attends, ça se fait pas. Regarde comme je suis pitoyable. c'est ce sentiment-là, le Yaakov Asherpada et Avraham, c'est ce sentiment-là qui va racheter Avraham et qui va faire qu'on aura une vraie Avat Hashem.
L'Avat d'Avraham, elle est moins forte que celle produite par Yaakov qui vient du Rachamim, c'est ça?
Ça veut dire qu'Avraham était l'ambassadeur de la Mida de Hava en soi. Donc Avraham n'avait pas besoin de faire appel au niveau de Yaakov. Mais Yaakov, en vérité, mais nous, qu'on est, des fois, on n'arrive pas à atteindre le niveau d'Avraham Avinu. D'accord? Yaakov, théoriquement, il est plus bas qu'Avraham. Puisque Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est Chesed, Boura, Tiferet. Donc Tiferet, c'est plus bas. Théoriquement, Yaakov, c'est plus bas. Mais on a expliqué que Yaakov, c'est Avrahaman. Mais Yaakov, il a la possibilité de se dépasser, vaïesque, de pleurer, et d'arriver au niveau de Avrahamim.
Qui elle va générer
Avraham. Avraham n'a pas besoin de passer par là, parce qu'Avraham, il a déjà Avat Hashem.
Alors en quoi Yaakov rachète
Ça veut dire que quand une personne n'arrive pas, quand une personne a envie d'avoir Avraham, il a envie d'avoir Avat Hashem, il n'arrive pas, dans un autre terme, Avraham est bloqué, parce qu'Avraham dit, voilà, j'ai envie que mes enfants, ils aiment Dieu, ils les aiment pas. Qu'est-ce que tu fais?
C'est la mida.
Qui c'est qui va sauver Avraham? Mais Yaakov va chercher pas Avraham. C'est la mida de Yaakov, c'est la miséricorde qui va sauver Avraham. Mais Zrat Hashem, la semaine prochaine, on va commencer le chapitre 46, Perek Memvav. Dans le chapitre 46, on va donner encore une autre technique pour servir à Kadosh Baruch Hu plus facilement. C'est en développant le concept de Hakarat Hatov, de la reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous donne. Donc on va devoir faire travailler notre imagination pour voir comment Akadosh Baruch Hu n'arrête pas de nous donner sans fin. Et on va voir comment, naturellement, on est obligé de rendre Akadosh Baruch Hu. Avec un peu de réflexion, sans même faire appel à la Torah, on est obligé d'arriver à envie, à avoir l'envie de reconnaître Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Bezrat Hashem, la semaine prochaine.
Excuse-moi, juste une petite question. Tout à l'heure, tu avais évoqué les deux termes, Avrahamin et Avrahaman.
Ouais.
Et les deux étaient utilisés dans la Tfila à des moments différents, et que l'un était un petit peu un moment plus chaud que l'autre.
Plus fort, c'est un niveau plus
haut. Plus élevé, ainsi de suite et tout. Mais les deux, quand on l'employait, ça s'adresse à Kadosh Baruch.
Bien sûr.
Alors, le niveau le plus élevé, qui est celui de la miséricorde inconditionnelle.
Oui, du potentiel, la miséricorde. C'est celui qui est capable de donner...
Inconditionnel. Je comprends que ça s'adresse à Dieu. Mais c'est quoi le niveau inférieur qui s'adresse à Dieu, qui serait celui qu'on comparerait au fait que moi j'ai un peu de pitié sur l'autre et c'est comme ça que je suis à Ravafamim. Pourquoi est-ce que Dieu il aurait une darga qui serait dépendant de...
J'ai compris.
C'est réducteur pour
ce
Dieu.
Ce niveau-là de Avrahaman, c'est le niveau dans lequel on dit que la bracha qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner va dépendre de notre fille l'autre. Ça, c'est un certain niveau. Et des fois, on nous dit, plus tu vas prier, mieux Akadosh Baruch Hu va te donner.
Donc, en vérité, ça. Dieu, il est toujours Avrahamim.
Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui descend en bas. Tu sais qu'Akadosh Baruch Hu descend en bas dans la structure du monde, mais quelque part, il y a un système de donnant-donnant. Donc, si, comme on a dit, c'est pour ça que je donne l'exemple de celui qui va ramasser de l'argent. C'est que nous, si on veut qu'Akadosh Baruch Hu nous donne de l'argent, ben, il faut qu'on le sensibilise. Et mieux on va le sensibiliser par notre filote, et mieux il va nous donner. Ça, c'est Avrahamim. Mais Avrahamim, c'est un niveau plus loin que notre Neshama peut faire appel. C'est la source de la miséricorde. C'est un niveau en vérité qu'on peut faire appel toujours. Comme Maïmonide dit clairement, il dit que les portes de la Teshuva, les portes de la Rahamim sont jamais fermées. Mais en général, dans notre filo de tous les jours, on ne fait pas appel à ça. À certains moments, comme la Neila, et quand une personne se sent qu'il est enflammé, il y a des fois des gens dans l'année, ils ont un jour, ils sont enflammés. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce moment-là, c'est un retour qui n'est pas proportionnel. C'est un retour qui est beaucoup plus fort. Ça, c'est Avrahamim. Et là, c'est très fort ce qu'il a de Morazakaï. Il nous dit qu'il suffit d'avoir un peu pitié de soi. Et quand tu as pitié de soi, Kadosh Baruch Hu, il t'envoie d'Avrahamim. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il te donne le coup de pouce pour te dépasser. De manière beaucoup plus forte que l'effort qu'on a fourni. C'est plus que l'effet levier. Parce que c'est proportionné. C'est beaucoup plus fort.
Ça a l'air étrange quand même comme notion d'avoir pitié de soi.
Qu'est-ce qu'on fait? Je te pose une question. Regarde. Monsieur David, quand tu fais teshuva entre Rosh Hashanah et Kippour, d'accord? Combien de personnes font teshuva? La majorité des gens, comment ils font teshuva? Pourquoi ils font teshuva?
Dans son analyse.
Parce que tu analyses et tu vois que tu prends conscience que c'est grave, que t'es parti loin. Et alors, si je suis parti loin? Je m'en fiche. Il y a des gens qui, tu leur dis que t'es parti très loin, ils s'en fichent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça le dérange? Parce qu'à un certain moment, il a pitié de soi. Il dit, attends, c'est grave.
C'est fort d'avoir pitié de soi.
Oui.
Faut quand même avoir une certaine...
J'ai donné une image. Tu peux trouver un autre terme si tu veux.
J'ai retenu celui-là.
De la même manière que tu vois un oiseau dehors qui souffre. Ouais.
C'est
l'exemple qu'on donne. Quand tu vois dehors un oiseau, tu sais, l'oiseau qui n'arrive pas à marcher, ça te fait de la peine. Ben si cet oiseau c'est toi, c'est toi, c'est moi.
Tu fais une
projection.
C'est une projection, je dis mais attends, c'est grave. Et tu réaliseras, c'est expliqué comme ça, que l'élément moteur qui pousse la teshuvah de la majorité des gens, c'est ça. C'est quand ils réalisent que c'est grave. C'est pas, ils disent, ouah, Dieu, c'est la lumière, je veux voir la lumière. Il y a des gens comme ça. Comme Yaakov. Yaakov, il a dit, il a fait teshuvah parce qu'il a vu la lumière. Ça, c'est les tzadikim, ça. Ça, c'est les tzadikim. Mais la majorité des gens, je peux pas donner des pourcentages, mais la majorité des gens, ils font teshuvah par pitié, parce qu'ils ont pitié de leur... Ils s'apitoient sur leur sort. Ils disent, attends, c'est grave. Où je vais, là? Et ça, la rachamim, c'est un chemin qui est derrière Yachar, comme il a dit au début. C'est un chemin qui est droit et qui est rapide. C'est l'autoroute.
Moi, j'ai fait, mais je... C'est
Harry qui a perdu, elle dit.
Non, j'ai pas fait, moi.
Qui a fait? Qui n'a pas... Vous avez fait?
On est six qui n'a pas perdu.
Levez la main ceux qui n'ont pas fait.
Est-ce que ceux qui ont fait peuvent attendre?
Oui, bien sûr.
Monsieur, c'est votre femme, c'est bon?
Rachamim, monsieur, hein.
Mais dis pas qu'on fait le virage. Rachamim, d'accord.
Oui.
Il a parlé des études. Il a parlé des bêtises.
Dit que les mêmes. Donc c'est quoi Rachamim? Oui. Il a dit c'est quoi Rachamim? Rachamim, ça veut dire c'est quand on fait appel à un niveau d'Akadosh Baruch qui est plus fort que la miséricorde. C'est-à-dire c'est la source de la miséricorde. Très bien. On dit que normalement Yaakov c'est Avar Rachamim, mais là il s'est dépassé, il a fait Avar Rachamim. À quel moment c'est arrivé ça dans l'histoire? C'est quand Yaakov a embrassé Rachel. Quand il a embrassé Rachel et qu'il a pleuré, c'est là qu'il s'est dépassé. Il a embrassé Rachel, il a pleuré, c'est là qu'il s'est dépassé. Spirituellement, ça veut dire quoi? Comment moi j'embrasse Akadosh Baruch Hu? C'est quand j'étudie la Torah. Quand j'étudie la Torah, qu'est-ce qui se passe? Je me dépasse. Ça veut dire quoi, je me dépasse? Ça veut dire que je vais chercher un niveau plus loin que Avar Rachamim. Je vais chercher le niveau de Avar Rachamim. Et automatiquement, ce niveau-là, il va me permettre d'avoir un retour d'Akadosh Baruch Hu qui est beaucoup plus fort que l'effort que j'ai fourni. Et ça, on l'a vu chez Moshe Rabbeinu. Je pense que l'exemple de Moshe Rabbeinu, c'est extraordinaire. Moshe Rabbeinu, dès que Dieu lui a dit, laisse-moi, j'efface ce peuple, et que Moshe Rabbeinu a eu pitié du peuple, dorénavant, il a eu un amour inconditionnel pour un Israël. Il n'y a plus de haut et de bas, c'est fini. Après, dorénavant, chaque fois que Dieu disait quelque chose, Moshe Rabbeinu dit, non, pardonne-les, slachna lavona amazé, je t'en prie, ne leur dis rien, ne leur fais rien. Parce que c'est fini. Une fois qu'on a pitié sur soi, l'amour qui vient après la pitié, c'est extraordinaire. C'est comme... Quand tu vois un oiseau par terre, tu vois un oiseau par terre qui est en train de souffrir, tu vas le prendre. Tu vas le soigner, tu vas lui faire du bien. Après, cet amour que tu as envers cet oiseau-là, c'est un amour inconditionnel, ça ne s'arrêtera jamais. Ça, c'est le sentiment que Kadosh Baruch Hu a envers nous. Ça veut dire que des fois, quand on sent qu'on a du mal à se sentir in, à aimer à Kadosh Baruch Hu, des fois en ayant pitié de soi-même, c'est ça ce qui va nous permettre à aimer à Kadosh Baruch Hu dans un amour qui ne bougera pas, dans un amour stable. En vérité, c'est ce qu'on fait chaque année entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est exactement ça qu'on fait.
C'est difficile de... Oh, il y en a plein.
Oui, c'est vrai.
Même si c'est pour rechercher la...
Mais c'est déjà... C'est plus... C'est ça ce qu'il... Pourquoi l'Admor HaZakhani dit que c'est derrière Yachar, c'est une autoroute? Pourquoi il dit que c'est un chemin droit? Parce que c'est plus facile d'avoir pitié de soi, d'avoir pitié de quelque chose, que d'aimer quelqu'un.
Oui, ça, oui.
Quand tu me dis « aime ça, aime le coca », j'aime pas le coca. Quand on te dit, aie pitié de toi que tu n'aimes pas le coca, ça c'est autre chose. C'est plus facile d'avoir ce sentiment-là. Bon, le coca c'est un mauvais exemple. Quand je te dis, par exemple, d'accord, je demande à quelqu'un, je dis, aime ta femme. Il n'aime pas, il n'arrive pas à l'aimer, il n'aime pas. Si tu lui dis, aie pitié, c'est grave que tu n'aimes pas ta femme, c'est beaucoup plus facile de le déstabiliser, de le faire comprendre que la situation n'est pas normale. Ça, même lui, il comprend.
Tu fais appel à un sentiment de misère.
Ça veut dire comprendre que la situation n'est pas normale, c'est plus facile que développer un sentiment d'amour. C'est pour ça que l'Admor HaZaken nous dit, dans ce Perek Memvav, nous dit que c'est une technique pour arriver à Avat Hashem plus facilement et plus rapidement. Rachamim.
Voilà.
La deuxième technique, c'est pas la reconnaissance. Ça, c'est la semaine prochaine, Bezrat Hashem. On aura 3 ou 4 cours dessus pour expliquer dans le livre. Bezrat Hashem, la semaine prochaine.